Merci d'être avec nous, Jean-Pierre Filiou, bonjour.
Bonjour.
Nous allons évoquer ce livre, mais vous enseignez le conflit israélo-palestinien à Sciences Po. C'est la une du Parisien aujourd'hui. Il y a eu des tensions mardi à Sciences Po sur les conditions d'accès d'une étudiante juive dans un amphithéâtre où se déroulait une conférence. Quel regard vous portez sur ce qui se passe à Sciences Po en ce moment jusqu'à la venue sur place de Gabriel Attal?
Moi, mardi, j'étais à Genève pour une rencontre israélo-palestinienne pour la paix. Donc, cela, je pourrais en témoigner directement. Donc, je n'étais pas sur place à Sciences Po. Donc, j'ai lu, comme tout un chacun, les comptes rendus qui en ont été faits. Là aussi, je peux témoigner de mon expérience. Ça fait une vingtaine d'années désormais que j'enseigne ce conflit ô combien passionné à Sciences Po de la manière la plus dépassionnée. Il n'y a jamais eu le moindre incident, bien au contraire. Et dans l'amphithéâtre Boutmi, qui était occupé mardi matin, j'ai pu enseigner un grand cours en amphithéâtre sur une histoire laïque du Moyen-Orient sur de nombreux siècles. Et je crois que c'est ça qui est important. Il y a 14 000 étudiants à Sciences Po, il y en avait une centaine ce matin-là. Voilà, bon, la justice a été saisie, mais il est très important qu'on continue d'enseigner et de transmettre en toute sérénité à Sciences Po.
Comment vous vous y prenez, justement? Est-ce que lorsqu'on est sur cette matière-là, qui est l'histoire, et quand on lit votre livre, cette histoire est absolument piégée, les mots sont piégés. Il y a d'autres domaines, d'ailleurs, où l'enseignement, et notamment au collège ou au lycée, est délicat, mais là, vous vous adressez à de jeunes adultes. Comment on enseigne cette histoire en marchant sur un fil, en vérité?
Comme historien, on a des outils qui sont solides, c'est la méthode historique, c'est l'objectivité de notre travail de recherche, et puis ce sont toujours les sources, hein, de toujours pouvoir montrer d'où nous tirons telle information, telle affirmation, toujours privilégier effectivement les sources croisées, les regards contradictoires, hein, parce que il n'y a pas une vérité, ça se saurait. En revanche, il y a des événements dont il faut retracer la chronologie avec le plus de précision possible et essayer, ça c'est notre travail d'historien, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans le livre, de leur donner du sens, donc de les interpréter.
Jean-Pierre Filiou, je reviens à ce qui s'est passé à Sciences Po et qui est remonté jusqu'au sommet de l'État. Est-ce qu'on peut comparer ou établir un rapport entre ce qui se joue dans cet établissement avec le déferlement de haine antisioniste, voire antisémite, qui a secoué plusieurs grandes universités américaines après le 7 octobre dernier?
Moi, il se trouve que j'ai enseigné aux États-Unis sur certaines des universités qui ont été touchés par le phénomène que vous décrivez. Je ne vois aucune comparaison possible avec le contexte et la réalité de Sciences Po. Alors, il se trouve que Sciences Po occupant une place centrale dans notre pays, il y a beaucoup de polémiques, voire beaucoup de fantasmes qui lui sont liés, mais l'idée d'une américanisation me paraît totalement dénuée de fondement.
J'en viens à votre livre, qui est une somme passionnante, comment la Palestine fut perdue et pourquoi Israël n'a pas gagné. En fait, il y a deux séries de questions qu'on a envie de vous poser pour que vous résumiez votre thèse, qui elle-même est très intéressante. La première série de questions, c'est en rapport avec cette question, comment la Palestine fut perdue. Vous expliquez qu'il y a trois grandes causes, et de même, pourquoi Israël n'a pas gagné, il y a aussi trois grands facteurs. Alors, prenons-les dans l'ordre. Pourquoi ou comment la Palestine fut perdue? Quelles sont les trois grandes raisons de cet échec du nationalisme palestinien?
Donc, effectivement, du côté palestinien, on a des faiblesses structurelles que j'ai inscrites dans la durée. Il y a d'abord l'illusion arabe, qui est très claire, c'est-à-dire que les États et les régimes arabes ont toujours soutenu la Palestine, si j'ose dire, comme la corde le pendu, et ont contribué à nier l'identité spécifique du peuple palestinien, et ça a même débouché sur des guerres ouvertes en 1970 en Jordanie, en 1976 au Liban, en 1983 au Liban. Et puis, il y a le factionnalisme palestinien. Je le connaissais, ça fait quand même une quarantaine d'années que je laboure un peu ce terrain, aussi bien en Israël que dans les territoires palestiniens. Mais la profondeur de cette polarisation, de cette division du champ palestinien, de la société palestinienne, des organisations palestiniennes. Alors, on peut ironiser sur les sigles des factions, FPLP, FLPP, FPLPCG, FLA, FLP.
Il y a même eu un sketch des Inconnus qui s'en rapprochait, c'est dire.
Tout à fait. Puis, il y avait quand même une scène désormais fameuse de la vie de Brian sur le front de libération du Judée.
Avec les Monty Python. C'est ce que vous appelez le factionnalisme. Si les pays arabes soutiennent la cause palestinienne comme la corde soutient le pendu, s'il y a le factionnalisme que vous évoquez, comment une cause nationale peut-elle émerger? Comment peut-on parler d'un peuple palestinien?
Ah, le peuple palestinien, lui, il existe. Mais la question est celle de la représentation. Et si le peuple palestinien a autant de mal à voir ses droits reconnus, c'est aussi pour la troisième raison, c'est de poids, de mesure. Donc, tout ceci s'aggrave et fait qu'aujourd'hui, on le voit bien avec la tragédie en cours à Gaza, on a un peuple qui souffre même de manière terrible, mais on n'a pas de représentant légitime qui parle en son nom, pour différentes raisons. Évidemment, la polarisation entre le Hamas terroriste et l'Organisation de libération de la Palestine, mais aussi parce que à l'intérieur de cette organisation, il y a différentes factions qui n'ont pas forcément l'intérêt général du peuple palestinien comme priorité.
Et le Hamas lui-même est divisé, vous écrivez dans le livre, bon c'est connu, mais que la branche politique n'avait pas nécessairement connaissance de ce qu'allait faire la branche militaire.
C'est clair, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est dans un théâtre d'ombre, qui est théâtre d'ombre tragique, j'insiste, parce que la tragédie est vraiment terrible. Mais ceux qui parlent au nom du Hamas aujourd'hui n'ont aucune prise sur ce qui se passe sur le terrain. La seule personne qui peut décider, elle est dans un tunnel, quelque part dans la bande de Gaza, elle s'appelle Yahya Sinwar, et faut quand même rappeler que Sinwar a été libéré par Benjamin Netanyahou en 2011 dans le cadre d'un échange de détenus.
Alors il y a ces facteurs qui contribuent au fait que, selon vous, la Palestine a été perdue, elle a perdu sa cause nationaliste, et vous dites mais il y a aussi des raisons pour lesquelles Israël n'a pas gagné. Et ces raisons sont récurrentes à travers l'histoire, c'est tout l'intérêt de votre livre, c'est que il reprend jour après jour, année après année, période après période, les raisons pour lesquelles la Palestine a échoué et les raisons pour lesquelles Israël ne gagne pas. Elles sont structurantes, structurelles, dites-vous. Lesquelles sont-elles?
Oui, donc effectivement, il y a ces atouts structurels dans la longue durée du mouvement sioniste puis d'Israël. Donc il y a d'abord la diversité, le pluralisme démocratique interne au mouvement sioniste qui lui permet de gérer ses contradictions internes beaucoup mieux que le nationalisme palestinien, mais qui du coup conduit à une prime aux extrémistes, surtout avec un scrutin profondément démocratique proportionnel à circonscription unique en Israël, mais qui fait le jeu des minorités agissantes. Et puis on a une stratégie de fait accompli qui, en n'identifiant pas l'objectif final, au fond, ne permet pas à Israël de dire, voilà, on a atteint cet objectif, donc on a gagné. Et puis, il y a le sionisme chrétien, qui est très méconnu en France.
Ça, c'est l'originalité, une des originalités de votre livre, c'est l'évangélisme qui serait un moteur important du sionisme à partir du 19e siècle.
Ah oui, il faut voir que le protestantisme anglo-saxon a été majoritairement sioniste bien avant que le monde juif le devienne. Dès le milieu du 19e siècle, il y a cette carte du révérend George Bush, ça ne s'invente pas. Le cousin de l'arrière-arrière-arrière-grand-père de deux présidents américains homonymes. Et donc il fait une carte des tribus d'Israël en Palestine où il n'y a plus de population arabe. Et pour ces croyants, voire ces fanatiques, leur salut individuel et collectif dépend de l'accomplissement des prophéties par le peuple juif. Ils ne peuvent pas agir directement, mais ils doivent fournir tous les moyens de ce qu'ils appellent la restauration du peuple juif sur la terre d'Israël. Et donc, il y a déni du peuple arabe de Palestine, bien sûr, mais il y a aussi transformation du lobby pro-israélien aux États-Unis en lobby pro-Likoud, pro-Netanyahou, pro-occupation, pro-colonisation et anti-processus de paix. Yitzhak Rabin, en 1995, se plaint amèrement de ces groupes qui font pression au Congrès contre le gouvernement israélien démocratiquement élu. Et on voit aujourd'hui que ces sionistes chrétiens qui ont connu leur heure de gloire sous Donald Trump bloquent complètement l'action de Joe Biden, y compris en termes budgétaires. C'est-à-dire qu'ils votent une aide massive à Israël pour l'offensive de Gaza, mais ils bloquent le budget fédéral et l'aide à l'Ukraine.
Jean-Pierre Filiu qui publie « Comment la Palestine fut perdue et pourquoi Israël n'a pas gagné au seuil ». Qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre pour que des militaires entraînés, des combattants du Hamas, soient conduits à massacrer 1300 personnes et ne maîtrisent pas l'incursion surprise qu'ils avaient orchestrée?
Alors là, je précise, on n'a pas encore de source définitive. On attend avec impatience la commission d'enquête israélienne, même si Benjamin Netanyahou fera tout pour la retarder et sans doute la saboter. Mais on finira par savoir, parce qu'Israël est une démocratie. Donc ma conjecture, c'est qu'on avait une opération massive, préparée dans le plus grand secret. La branche extérieure du Hamas n'était pas informée. Il y a eu donc franchissement par entre 6 et 9 points de la barrière de sécurité entre Gaza et Israël, dans l'optique d'une prise massive d'otages à échanger, c'était sans doute l'idée de départ, contre l'ensemble des détenus palestiniens. Et puis, il y a eu le festival Nova, où il y a eu 364 morts. C'était un carnage abominable. Apparemment, les terroristes n'étaient pas informés, mais voilà, ça a été la curée, ça a été abominable. Et puis après, donc il y a eu les attaques des kibboutz. Et en fait, les membres du Hamas, les terroristes, pensaient rester 2 heures sur le terrain et repartir. Et il n'y a eu pendant parfois jusqu'à 24 heures, aucune réaction de l'armée israélienne. Et donc, il y a eu une deuxième vague où là, la lie de Gaza, les gangsters, les truands, les voyous, tout ce que vous pouvez imaginer, ont été invités à participer à la curée. Et là, ça a été l'escalade dans l'horreur.
Qu'est-ce qui justifie ça dans une cause nationaliste?
Absolument rien. Moi j'ai dit... dans plusieurs pays arabes, et malgré les réactions parfois vives de l'assistance, que les horreurs perpétrées ce jour-là représenteraient une tache durable sur la cause palestinienne. On sait que pour qu'Arafat parvienne à s'émanciper du stigmate terroriste qui était accolé à l'OLP, il a fallu de longues années. Et là, on a évidemment une régression terrible. Et il faut l'admettre et arrêter d'employer des mots qui ne correspondent absolument pas à la réalité de ces actes barbares.
Jean-Pierre Filiu, un dernier mot, la paix est impossible.
Ah, au contraire, la paix est aujourd'hui une urgence existentielle. On voit bien que s'il n'y a pas la paix, ce cycle de guerre qui est déjà le pire que Israël et les Palestiniens ont connu les uns comme les autres, ne préparera qu'un cycle de guerre encore pire que celui-ci. Donc c'est justement parce qu'on est dans l'horreur, dans l'atrocité, dans les souffrances terribles des deux côtés, qu'il faut que les vrais amis des uns et des autres se saisissent de ce moment tragique pour aller vers la solution à deux États, qui non seulement sera le seul moyen d'éviter la répétition de telles horreurs, mais aussi représentera, et j'insiste, la victoire d'Israël. Et tant qu'il n'y aura pas cette solution politique, la victoire lui échappera, parce qu'il n'y a pas de victoire militaire dans le conflit israélo-palestinien, du fait des liens aussi intime qu'il y a entre les deux peuples sur la même terre.
Jean-Pierre Filiu, comment la Palestine fut perdue et pourquoi Israël n'a pas gagné ? Histoire d'un conflit, 19e, 21e siècle, c'est paru au Seuil et je vous le recommande vivement, même si en vous lisant, on a beaucoup de mal à imaginer qu'un jour, il y aura la paix dans cette région du monde, même si elle est nécessaire. Merci Jean-Pierre Filiu. À suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gattegno et notre esprit libre du jeudi, François-Olivier Gisbert.